Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Restaurants fermés, salons annulés, rassemblements interdits. Les producteurs des vins du Bugey attendent avec impatience la reprise. C'est le grand dossier de ce magazine.
Comment se sentent les collégiens avec cette période? Samuel, notre stagiaire de 3e, leur a demandé leur avis.
La maison Dizieux a commémoré les 75 ans de la journée du souvenir. Retour sur ce moment de l'histoire.
Et votre actualité en bref.
Bourque, en bref.
Pour l'instant, pas de vaccinodrome dans l'Ain.
5 grands centres de vaccination ont ouvert ou vont ouvrir dans la région, dans le Rhône, la Loire, l'Isère, le Puy-de-Dôme et la Haute-Savoie. Un 6e est à l'étude dans le Rhône encore. Et l'investissement par vaccinodrome est d'environ 140 000 euros. Dans l'Ain, pas de grands centres de vaccination pour l'instant, mais un projet reste à l'étude. C'est à la préfecture de décider de son implantation. 16 000 doses de vaccins doivent être livrées toutes les semaines dans l'Ain, réparties entre les centres de vaccination déjà existants.
Un appel à projet pour les entreprises sociales du Grand Bourg.
C'est Ronald Pia, un incubateur d'entreprises, qui l'organise. En collaboration avec l'AGLCA et la CA3B, les entreprises sélectionnées pourront concrétiser leurs projets. Elles seront suivies pendant 9 mois avec des formations. Si vous voulez participer, c'est jusqu'au 26 avril sur le site ronaldpia.fr.
La semaine dernière et celle du 26 avril, les collégiens font à nouveau cours à distance. Samuel, notre stagiaire de 3e, a contacté ses camarades pour récolter leurs ressentis.
Aujourd'hui, je vais interroger mes camarades au sujet du nouveau confinement. Comment vis-tu l'annonce de ce nouveau confinement?
Moi, je le vis comme quelque chose de bien. C'est vrai que ça peut nous faire découvrir de nouvelles choses. Comment est l'école à la maison, même si l'année dernière, on a eu la même chose. Mais ça peut aussi nous faire comme une petite pause et nous faire découvrir des autres façons de travailler.
Je vis bien parce que on peut se coucher quand on veut, on peut se lever un peu quand on veut à peu près. Mais je le vis plutôt mal aussi parce qu'on sera coupé de la vie sociale.
Que vas-tu faire pendant la période de confinement durant les vacances?
Faire du vélo, du skate, ce genre de choses. Puis je vais essayer de réviser pour le brevet. Puis de peut-être essayer d'apprendre une nouvelle langue ou ce genre de choses. Parce que je pense que c'est pas quelque chose dont j'ai le temps... quand on est dans la vie normale, si je puis dire.
Je vais faire des activités comme sortir dehors, aller en ville pendant le confinement. Bien sûr, je vais pas avoir beaucoup d'amis pour éviter les contacts.
Je vais faire beaucoup de sport. Je vais faire aussi un tout petit peu de devoirs.
Pendant cette période de confinement, durant les vacances, je vais peut-être sortir dehors avec des amis, jouer à la console, hein. Je pense que la plupart des jeunes vont faire ça.
Comment vas-tu organiser ton emploi du temps pendant la semaine scolaire de confinement?
Je vais essayer de garder un certain rythme scolaire. Bon, je vais pas continuer à me lever à 6h du matin, mais je vais essayer quand même de me donner une certaine organisation pour pas être trop perdu quand on va retourner en cours, sachant qu'on sait même pas si on va retourner en cours en mai vraiment ou si ça va perdurer encore. Mais puis je vais essayer de pas me laisser aller, parce que ça aussi c'est le risque quand on travaille chez soi. C'est que très vite, on peut être distrait et puis je vais essayer d'éviter ça.
Je vais d'abord, voir si j'ai des cours en visio. Du coup, je vais faire ça en priorité, le matin généralement. Ensuite, je vais commencer à faire mes devoirs qu'ils ont donnés. Quand j'aurai fini tout ça, je réviserai mon brevet. Je commencerai à réviser mon brevet.
Je pense m'organiser pour les devoirs, plus en les faisant l'après-midi que le matin ou le soir.
Je remercie mes amis qui ont bien voulu témoigner pour Radio B.
Merci à Samuel qui était en stage à Radio B la semaine dernière.
Une journée de commémoration à la Maison Dizieux.
C'était la semaine dernière, une émission en direct de la Maison Dizieux était proposée au public via les réseaux sociaux. Revenons un peu sur l'histoire de cette maison du Bugey dans la Seconde Guerre mondiale. Elle abritait une quarantaine d'enfants juifs. Dominique Vidot, directeur de la Maison Dizieux, nous raconte l'histoire.
Elle commence en mai 1943, lorsque Sabine Zlatin, qui est une assistante sociale qui travaille pour une organisation de sauvetage d'enfants juifs à Montpellier, décide de transférer la quinzaine d'enfants dont elle a encore la charge à Montpellier dans la zone italienne, qui correspond, si vous voulez, à tous les départements qui sont à l'est du Rhône, dans l'ancienne zone dite libre, zone sud. Cette zone italienne est réputée plus sûre pour les enfants et les familles juives qui fuient la persécution nazie partout en France. Et donc, Sabine va installer cette quinzaine d'enfants dans une maison à Izieux, dans le petit village d'Izieux, situé dans l'Ain. Et ça sera le début, en mai 43, donc d'une colonie qui va héberger jusqu'à, au total, 105 enfants. Et malheureusement, le 6 avril 1944, une rafle a lieu dans cette colonie d'enfants réfugiés. Et 44 enfants qui se trouvaient encore dans la colonie et 7 adultes qui les encadraient sont arrêtés sur ordre de Klaus Barbie, qui était l'un des responsables de la Gestapo à Lyon. Et ensuite commence le cauchemar, c'est-à-dire que les enfants sont transférés à Lyon, puis ensuite, dès le lendemain, le 7 avril, à Drancy, dans le camp de transit de Drancy, près de Paris. Et ensuite, à partir du 13 avril, ils vont être déportés vers Auschwitz-Birkenau. Et une seule éducatrice, Léa Fellblum, reviendra du camp d'Auschwitz-Birkenau.
Et il y a 75 ans, le 7 avril 1946, c'était la première journée du souvenir. Alors, en quoi consistait cette journée ?
Alors, la première journée du souvenir, elle est très très importante. Sabine Zlatin n'était pas là le jour de la rafle. Son mari, lui, était bien présent, Miron, et il va être déporté comme tous les autres. Mais Sabine était à Montpellier le 6 avril 1944 en train d'essayer de trouver un nouveau refuge parce que depuis le mois de septembre 1943, les Allemands avaient récupéré le contrôle de la zone italienne et du coup le danger était très grand, était devenu presque plus grand à Izieux qu'à Montpellier qu'elle connaissait mieux. Elle cherchait donc une solution de repli pour les enfants et elle apprend la nouvelle de la rafle donc à Montpellier. Et ensuite, elle n'a eu de cesse d'œuvrer pour qu'on n'oublie pas ce qui s'était passé à Izieux le 6 avril 1944. Dès le mois de juillet 1945, elle écrit au préfet de l'Ain. Elle lui demande le droit d'organiser une journée d'hommage et de poser une plaque sur le mur de la maison ainsi qu'une stèle dans le petit village de Brigny-Cordon, qui est juste en dessous d'Izieux. Et le préfet va lui répondre qu'il est d'accord, qu'il l'autorise à le faire et qu'il va même l'aider à organiser une journée du souvenir. Et cette journée du souvenir, ce sera donc le 7 avril 1946, soit à peu près 2 ans, jour pour jour après la rafle. C'est une journée dont on avait mal mesuré l'ampleur jusqu'ici, mais en réalité, ça a été une journée extraordinaire, de portée nationale.
Des souvenirs et des témoignages ont été récoltés pour les 75 ans de la journée du souvenir. Ils vont faire l'objet d'une exposition à la maison d'Izieux, dès que la situation le permettra. Une deuxième exposition sera aussi itinérante dans l'Ain. Et une exposition numérique sera disponible à l'automne 2021.
Quelques idées pour s'occuper pendant cette période.
Pour les Burgiens notamment, le Mont Julie reste dans la limite des 10 km pour vous balader s'il y a un rayon de soleil. Le parc de Bouvant est aussi ouvert jusqu'à 18h30. Toujours pour les balades, vous avez la forêt de Seyon et celle de Lan. Et puis si le mauvais temps est là, les médiathèques restent ouvertes. Vous pouvez toujours emprunter des livres, des DVD. Vous pouvez aussi écouter tous les podcasts disponibles sur notre site radio-b.fr. Émissions musicales, historiques, d'actualité, de santé, il y en a pour tous les goûts.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la vague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Une surface d'environ 480 hectares répartie sur 3 terroirs, Montagneux, Belet et Cerdon. 80 vignerons, c'est ce que représente aujourd'hui l'AOC, appellation d'origine contrôlée Bugey. Il y a un an, nous étions en plein dans le premier confinement. Aujourd'hui, nous vivons le troisième. Les restaurants sont fermés depuis la fin octobre et les événements festifs interdits. Les producteurs de vin du Bugey n'ont pas le moral face à cette situation, à laquelle s'ajoutent les aléas climatiques. Il a gelé ces derniers jours dans toute la France. Jean-Luc Guillon, viticulteur à Poncin, associé à la maison Lingot-Martin et président du syndicat des vins du Bugey.
Toute la vente aux particuliers, qui représente un peu plus de 50% sur l'ensemble de l'appellation, est en régression avec ces différents confinements. La partie professionnelle qui est liée à la restauration, puis tout ce qui est événementiel, est en grosse perte de chiffres. Après, il existe aussi le marché export, mais qui est très aléatoire par rapport aux différents confinements de chaque pays, de chaque continent qui évolue de mois en mois et de façon différente. Ouais. En plus du confinement, nous avons perdu la saison d'hiver aussi avec la fermeture des stations, donc qui est un véritable frein à l'activité commerciale. Et puis après, il faut rajouter à cela l'activité aussi des salons, donc qui représente sur l'ensemble de l'appellation quand même une grosse part du chiffre.
Est-ce que beaucoup de producteurs ont souscrit un prêt garanti par l'État ?
Une grosse majorité, peut-être qu'on n'est pas loin des 80% des viticulteurs, si ce n'est plus, ont souscrit un PGE. Donc là, ça fait un an par rapport à le premier confinement. Donc c'est vrai, les premiers PGE donc, arrivent à la date d'échéance ou à force se prononcer de quelle façon nous allons rembourser ce PGE.
Et là, il y a quelle perspective
Le souci, c'est que pour se décider, on a besoin de projections. Donc c'est vrai que la projection, on a du mal. Tout le monde a espoir, mi-mai, mi-juin, d'ouvrir et puis d'avoir une activité normale. Mais c'est très dur de se prononcer sur un éventuel remboursement de ce PGE sans avoir une projection commerciale normale, quoi.
Comment vendre donc sa production, vu le contexte ? Est-ce que vous avez développé des ventes en ligne ?
Donc c'est vrai, le Covid a fait en sorte que chaque vigneron maintenant est équipé d'une boutique en ligne ou via une plateforme. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros effort là-dessus. Après, ça reste quand même marginal en termes de volume de vente. C'est un plus, ça permet de garder un lien aussi avec la clientèle, mais ce n'est pas le plus gros des ventes, oui.
Est-ce que vous avez peur pour la filière des vins du Bugey si la situation perdure ?
Malgré le peu de projections que l'on a quant à l'ouverture des commerces et puis des différentes activités touristiques, je reste optimiste parce que l'année dernière, entre les confinements, on a eu la période de juin, juillet, août et septembre, qui ont été très, très dynamiques, qui a permis quand même aux exploitations de se requinquer un peu au niveau de la trésorerie. Et donc, moi, je suis persuadé qu'il y a une consommation et puis les gens ont envie de consommer, que ce soit au restaurant, que ce soit un bon repas chez soi, donc une bonne bouteille. Et puis le fait de se retrouver en famille, en toute convivialité. Je pense que les gens attendent ça et sont pressés.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Plus de fêtes, plus de repas d'entreprise, plus de restaurants et plus de visiteurs dans les caveaux. Les ventes sont en berne pour les vins du Bugey. Parmi eux, le Cerdon, un vin pétillant d'appellation d'origine contrôlée. Samuel, notre stagiaire de 3e, a fait ses recherches. Il nous en dit plus sur l'origine de ce vin indinois. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Donc Samuel, tu nous parles plus en détail des vins du Bugey.
Les vignobles du Bugey sont situés dans le sud du département de l'Ain. Ils sont installés dans des paysages montagneux et forestiers et sont localisés près des montagnes du Jura, entre 200 et 550 mètres. Il existe en tout 7 vins produits dans le Bugey. Le Chardonnay et la Roussette du Bugey qui sont tous deux des vins blancs. Il existe des vins rouges, le Gamay, le Pinot Noir et l'Amandeuse. Et pour finir, nous avons des rosés qui sont composés du montagneux et du Cerdon.
Et on va s'intéresser plus en détail au Cerdon. Quelle est son histoire ?
Alors, le Cerdon a été découvert à Saint-Martin-du-Mont dans les années 1900. Il était alors appelé le Gravel. À cette époque, la technique était différente. Il laissait fermenter le vin et très peu de temps et le buvait ensuite. La méthode ancestrale a été lancée dans la période d'après-guerre et surtout dans les années 1970-1980. Déjà dans les écrits, il le décrivait avec une couleur rosée et un goût pétillant, ce qui correspondrait au Cerdon d'aujourd'hui. Le Cerdon est un vin rosé, fruité, et pétillant, produit autour de la commune du même nom. À lui tout seul, ce vin est produit sur 176 hectares et ça représente un tiers de la surface de production des vins du Bugey. Les sols du Bugey sont relativement propices à la production de vin, malgré la présence de calcaire dans les sols. L'ensoleillement y est favorable, en moyenne plus de 1700 heures par an. Les précipitations ont principalement lieu l'été, quand il fait le plus chaud. Sa situation géographique adoucit les températures froides de l'hiver, ce qui favorise la maturité des raisins.
Les vins du Bugey ont l'appellation d'origine contrôlée, ça veut dire quoi ?
L'AOC certifie la qualité d'un produit. Pour obtenir l'appellation, il faut plusieurs critères, comme respecter un territoire bien précis. En 1958, les vins du Bugey sont reconnus comme vins de qualité supérieure par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Ils obtiennent ensuite en 2009 l'AOC. Tous les cerdons ne sont pas forcément concernés par ce label. Pour l'avoir, ils doivent répondre aux exigences de la méthode ancestrale, c'est-à-dire ne pas être gazifiés.
Merci à Samuel, notre stagiaire de 3e. Nous sommes partis à la rencontre de vignerons dans ce territoire vallonné sur le massif du Jura.
John Messerly est exploitant de vin à Cerdon avec son fils, une histoire de famille qui dure depuis 10 générations. Ce jeudi matin, après une nuit où les températures sont descendues en dessous de 0 degré, il constate les dégâts.
Ça c'est du gamay, on voit que c'est marron quoi. Si j'appuie dessus, hop, vous voyez comme ça craque. Donc ça c'est tout, ça a tout été pris par le gel. Alors en principe après, ce bourgeon là va... sécher, il a gelé. Donc le deuxième bourgeon, on ne sait pas si ça l'a pris ou pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le bourgeon latent, dormant. Mais celui-là, toujours est-il qu'il est pas fructifère. Donc même s'il se développe, il donnera pas de raisin, quoi. Donc après, faut attendre ce qui va sortir, quoi. Voilà.
Et vous pouvez rien faire dans ces cas-là. Vous savez qu'il va geler.
Ouais, il y a des parcelles qui sont trop morcelées. Après. On peut... Si, il y a... La lutte, c'est quoi Ça peut être les bougies. Et après, ça découle. C'est... On a vu dans d'autres vignobles qu'ils ont allumé et ça n'a pas forcément marché. Donc voilà. Je pense que là, il faisait vraiment froid. Après, c'est pas fini. On dit que ça peut geler jusqu'au sein de glace, jusqu'au 15 mai. On peut avoir d'autres épisodes de gel. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Quand on est tributaire du temps...
Et dans ces cas-là, vous avez des aides ?
Non, mais moi, personnellement, je ne suis pas assuré. Voilà, il y a des assurances grêle qui existent, donc je me suis assuré pour la grêle, mais... Gel, après, voilà, toujours est-il que ça... On vit toujours avec des surcoûts d'exploitation, donc... assurance par-ci, assurance par-là, voilà. Donc, si on ne croulait pas sur les charges, on pourrait, je pense, s'assurer. Mais le problème, c'est toujours l'éternel un problème. En plus, là, qui plus est, avec la crise Covid... C'est pas là que les exploitations sont au meilleur de leur forme. Donc point de vue trésorerie, voilà, c'est le chat qui se prend la queue, quoi. Là, le commerce commençait petit à petit à reprendre avec les beaux jours et tout. On nous a imposé malheureusement un confinement. Donc voilà. Les clients se déplacent plus, bref. Les restos sont toujours fermés, donc les associations sont en stand-by, donc voilà, pas de fête, pas de dégustation de cerdon, voilà, pas de vente, pas de rentrée d'argent, voilà.
Et vous avez essayé quand même de vous adapter pour essayer de vendre votre stock ?
On essaye de nous, on peut livrer, mais les gens, malgré tout, boivent pas... boivent pas tout seul chez eux enfermés entre quatre murs, quoi. Voilà, le cerdon, c'est un vin qui est un peu festif, qui se boit à plusieurs, donc on peut pas se regrouper, donc voilà, c'est un tout. Après, on essaye, oui, malgré tout, de démarcher nos clients, mais on voit bien qu'il n'y a pas l'attrait festif, voilà.
John estime avoir perdu au moins 30% de son chiffre d'affaires en un an. Il produit 55 000 bouteilles chaque année. Son stock de 2019 est toujours en partie dans son local, dans l'attente de futurs acheteurs. Il possède plus de 5 hectares où il cultive en grande majorité du gamay, le cépage essentiel au cerdon. L'appellation cerdon est protégée. Elle doit être faite avec la méthode ancestrale. Le vin devient alors gazéifié naturellement. John produit surtout avec l'autre méthode, la méthode de vin gazéifié, non reconnue par l'AOC.
Donc là, on est sur les cépages de gamay, c'est ça ?
Oui.
Alors expliquez-nous un peu comment ça marche pour faire votre cerdon.
Alors Gabin, nous on fait principalement de la méthode, ce qu'on appelle la méthode de vin gazifié. Donc en fait on vendange, on laisse à l'issue des vendanges, le vin se dépose de 48 à 72 heures. Ensuite on fait un premier éclaircissement, débourbage, c'est vraiment le terme, où on sépare les particules sol et du jus de raisin. Donc ensuite ce jus de raisin qui n'est pas encore alcoolisé va pouvoir fermenter, c'est-à-dire que les sucres vont se transformer en alcool pour donner du vin à l'issue de la fermentation. On laisse la totalité des sucres se transformer en alcool. Voilà, donc on ramasse en principe à 10-11 degrés de sucre en densité, ce qui va donner un vin qui va faire 10-11 degrés, étant donné qu'on laisse la totalité des sucres se transformer en alcool. Ce processus dure à peu près un mois et demi, deux mois, et à l'issue de ça, on fait une filtration, une mise en bouteille avec une gazification, saturateur, saturation, voilà, où on apporte un gaz exogène, CO2, dans la bouteille, voilà.
Dans le Bugey, 180 hectares sont cultivés pour donner du cerdon en méthode ancestrale reconnue par l'AOC. Lingot Martin est l'un des plus importants exploitants de cerdon. Il pratique cette méthode d'appellation d'origine contrôlée. Ce regroupement de 4 vignerons possède plus de 40 hectares de vignobles. L'un d'eux, Jean-Luc Guillon, nous fait visiter.
Donc là, on est dans la partie cuverie. Donc on a la réception des raisins et des jus qui arrivent de l'autre côté. Donc nous, on a à peu près 45 hectares de vignes en production. Donc à 90% qu'on élabore en cerdon, méthode ancestrale, en AOC Bugey. Pour faire un cerdon, le cahier des charges se repose sur uniquement deux cépages, qui est le Gamay et puis le Poulsard. Ce sont deux cépages rouges. Nous allons faire passer par une phase de pressurage. Il peut y avoir une phase de macération suivant les millésimes, suivant la couleur que l'on veut obtenir. Et après, on réceptionne ici et on va faire ce qu'on appelle le débourbage. On va laisser se décanter les jus au bout de 48 heures par le froid de façon naturelle. On va repomper ce jus clair obtenu pour l'emmener dans les plus grosses cuves. Et là, nous allons lancer la fermentation à basse température. C'est une des particularités de la méthode ancestrale. Donc cette fermentation, nous allons la suivre de façon journalière et nous allons descendre cette température encore jusqu'à ce qu'on ait obtenu à peu près 6-7 degrés d'alcool acquis dans le milieu. Et là, nous allons faire un choc thermique pour freiner cette fermentation. Nous allons filtrer, mais très 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 grossièrement, pour garder les levures naturelles. Dans notre cahier des charges, il nous est interdit de rajouter ni sucre ni levure à ce moment-là. Et donc la levure, ce qu'il faut bien comprendre, la levure, quand elle dégrade le sucre en alcool, elle travaille, elle dégage une énergie. L'énergie, c'est le gaz carbonique, et c'est à ce moment-là que la prise de mousse se fait de façon naturelle. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de liqueur pour avoir différentes catégories de vin. Le cerdon est naturellement demi-sec. Voilà. C'est la grosse particularité, c'est la grosse différence qu'il y a par exemple avec les méthodes traditionnelles ou les méthodes champenoises. Donc ici, on est ce qu'on appelle à l'atelier de transfert. Ça veut dire lorsque la fermentation en bouteille est terminée et au-delà du délai de 2 mois de prise de mousse qui est inscrite au cahier des charges, nous allons prendre les bouteilles au fur et à mesure de la demande et nous allons faire un transfert. C'est-à-dire que nous allons vider la bouteille sous pression. Elle va se vider en grande partie de son gaz naturel. On va filtrer, stocker dans une cuve sous pression. Et tout du long du cheminement, nous allons laver la bouteille extérieure-intérieure. Et nous allons retirer immédiatement en bouteille et apposer le bouchon liège et le muselet, le bouchage final.
Le cerdon n'est pas un vin de garde. Ça veut dire qu'il ne va pas se bonifier si on le conserve plusieurs années. Il faut donc le déguster assez rapidement après son achat. Sa robe est rose, plutôt foncée. Il est fruité et assez peu alcoolisé. À consommer quand même avec modération. Les caveaux des vignerons du Bugey sont toujours ouverts pendant ce confinement, que ce soit la maison Lingot Martin à Poncin ou le caveau de John Messerly et son fils dans le centre de Cerdon. Des commandes sont aussi possibles. Rendez-vous sur leur site internet.
L'activation du régime de calamité agricole, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. après l'épisode de gel la semaine dernière. En clair, ce sont donc des mesures d'accompagnement qui vont être mises en place, mais pour l'instant, aucun montant n'a été annoncé. 80% du vignoble français a été touché, selon le président du CNIV, comité national réunissant les interprofessions des vins à appellation d'origine protégée.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Exceptionnellement, pas de À vous les Burgiens lundi prochain. On se retrouve le lundi 26 avril. Très belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.